VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. Hommage aux femmes avec la célébration ce jeudi 8 mars de la Journée internationale de la femme au Cameroun. Notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Gelentap, nous parle à cette occasion de deux femmes qui se distinguent courageusement dans la lutte pour la promotion et le respect des droits de l'homme dans leur pays.
Maximilienne Gombe, la cinquantaine, a crevé l'écran en janvier 2015 quand le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, REDAC, a dénoncé en exclusivité les exactions de l'armée dans la région de l'extrême nord.
Dans la lutte contre la secte terroriste Boko Haram, les forces de défense et de sécurité ont fait l'incursion dans deux villages parce qu'ils auraient entendu qu'il y aurait des complices de Boko Haram dans ces villages. Sans bien se renseigner, ils ont raflé les deux villages, surtout les hommes et des jeunes. Et nous, on sait qu'il y a eu au moins 130 qui sont décédés dans des conditions qui n'ont jamais été élucidées et qui ont été inhumées. Jusqu'à aujourd'hui, on demande toujours où, personne ne sait.
Pour Issa Tirou Mabakari, porte-parole du gouvernement camerounais, seules 25 personnes étaient portées disparues. À la tête du REDAC, depuis 2007, la publication de ce rapport en collaboration avec Amnesty International avait été suivie d'actes d'intimidation contre la directrice de REDAC et ses proches. L'avocate internationale camerounaise Alice Com, rencontrée à Douala par VOA Afrique, se souvient de ce temps de persécution vécu par Maximilienne Gombe.
Elle a été cambriolée plusieurs fois. Elle a fait l'objet d'agressions. On s'est attaqué aussi à ses enfants mineurs qui aujourd'hui sont obligés de faire leurs études et de passer leur puberté hors leur maman.
À Yaoundé, Cyril Roland Béchon, la trentaine, cumule déjà 7 ans d'expérience à la tête de l'ONG Nouveau Droit de l'Homme. À plusieurs reprises, elle s'est sentie en danger dans l'exercice de ses activités. Cyril Roland Béchon, directrice Nouveau Droit de l'Homme.
Après la sortie du rapport d'Amnesty International sur la torture au Cameroun, j'ai été séquestrée dans une compagnie de courrier express par des agents de renseignement. On vit au quotidien l'irruption des forces de sécurité des autorités administratives dans nos bureaux, nous empêchant ainsi de travailler.
Le respect des procédures judiciaires pour des personnes interpellées pendant la crise anglophone et surtout la tenue d'un éventuel procès équitable pour 47 personnes extradées du Nigeria sont autant de thèmes qui retiennent actuellement l'attention de Cyril Roland de Béchon. Le gouvernement camerounais tarde encore à répondre à ses craintes et appréhensions quant aux présumées violations des droits de l'homme des concernés dont on ignore toujours leur lieu de détention. Mais pour les deux militantes camerounaises des droits de l'homme, leur lutte se poursuit encore. Yaoundé, Emmanuel Gelentap, VOA Afrique.
La crise en République démocratique du Congo, le Conseil de sécurité demande à toutes les parties de travailler ensemble pour la tenue des élections dans le calendrier retenu du 23 décembre au Congo, donc, a déclaré le président en exercice du Conseil de sécurité de l'ONU, Karel van Oosterom. Lors de consultations à huis clos hier, les 15 membres du Conseil ont aussi condamné le recours à la violence lors de manifestations le 25 février dans différentes localités du pays. Alors qu'une grève générale est organisée demain vendredi en mémoire des militants tués par des forces de l'ordre ce jour-là. Sur place, le nouveau code minier au cœur du débat national, le président Joseph Kabila a convoqué les opérateurs du secteur. La réunion a duré 8 heures. Christian Lusakweno de Top Kogo FM, notre station partenaire à Kinshasa, fait le point.
Le président de la République et les miniers se sont séparés en se promettant de se revoir pour élaborer avec le gouvernement la nouvelle réglementation minière. Le nouveau code minier sera promulgué très bientôt. Quant aux craintes émises par les miniers, les solutions seront résolues au cas par cas, a dit à la presse le ministre des Mines, Martin Kabouéloulou.
Nous allons porter ces problèmes au cas par cas et nous allons voir avec les commissions du gouvernement et ensuite nous porterons ces modifications à la confection du règlement minier.
Selon le ministre des Mines, les pourparlers ne se sont pas bien passés au début, mais se sont heureusement bien terminés.
Ils étaient de mauvaise humeur, hein, mais maintenant c'est bon, c'est ça qui les arrange.
Au Palais de la Nation, Christian Lusakweno, Top Congo FM.
Environ 2500 réfugiés burundais RDC ont été escortés mercredi jusqu'au Rwanda par les casques bleus de la MONUSCO. Ils craignaient d'être rapatriés au Burundi. Abdourahmane Dia.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Cela faisait 2 mois qu'on était sans aucune assistance de la part du HCR ou des autorités congolaises. On vivait sous les menaces de nos voisins congolais et on craignait de se faire extrader vers le Burundi. C'est ce qu'a expliqué Dionysie Nyanoui, un de leurs porte-parole. Les 2579 réfugiés burundais ont parcouru à pied les 5 kilomètres séparant Kamanyola en République démocratique du Congo du poste frontière rwandais de Bugarama. En septembre dernier, 36 réfugiés burundais avaient été tués au cours d'affrontements avec des soldats congolais au sujet de l'emprisonnement de certains d'entre eux. Des dizaines de milliers de Burundais se sont réfugiés depuis 2015 dans l'est de la RDC pour échapper aux violences dans leur pays. Le Burundi traverse une crise politique depuis la candidature en avril 2015 du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat et sa réélection en juillet de la même année.
Au Togo, au lendemain d'une déclaration de l'opposition dénonçant la poursuite du processus électoral par le gouvernement et annonçant la reprise de ces manifestations de rue, le gouvernement dément l'existence d'un accord qui le contraindrait à suspendre le processus devant aboutir aux élections législatives et locales prévues pour cette année. Les précisions de notre correspondante à Lomé, Kaï Lawson.
Il n'y a jamais eu un accord qui stipule que la coalition cesse de manifester et qu'en retour le gouvernement suspend le processus électoral. C'est ce qu'a affirmé le ministre de la Protection civile et de la Sécurité, Yark Damhan, prenant le contre-pied d'une des raisons évoquées par la coalition des 14 partis de l'opposition pour reprendre les marches. Le gouvernement togolais en conférence de presse ce mercredi a tenu à souligner que les législatives doivent se tenir très prochainement et qu'une suspension du processus électoral pourrait conduire à un vide juridique, ce que le gouvernement ne se permettrait pas. On ne se lève pas un matin pour organiser une élection, elle se prépare à laisser entendre le ministre Yak. Concernant les manifestations de l'opposition de la semaine prochaine, le gouvernement se veut ferme. Aucune manifestation n'est autorisée dans les villes de Sokodé, Bafilo et Mango dans le nord du pays. Les populations de ces 3 villes sont plus heureuses sans les marches, a ironisé Yark Damhan. Rappelons que la coalition de l'opposition a appelé à 4 jours de manifestation de rue la semaine prochaine. Kaï Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Le procès du putsch manqué de septembre 2015 au Burkina Faso reprendra le 21 mars. Ouvert le 27 février, le procès avait été suspendu après le retrait de tous les avocats de la défense. Les avocats se sont retirés parce qu'ils contestent la légalité du tribunal militaire composé de 2 magistrats professionnels et de 3 militaires ayant le rôle d'assesseurs. Au total, 84 accusés sont jugés par un tribunal militaire dont les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé, cerveaux présumés du coup d'État manqué qui a fait 14 morts et 270 blessés. L'acheminement de l'aide humanitaire qui était prévu aujourd'hui dans l'enclave rebelle dans la Ghouta orientale, soumise à d'intenses bombardements du régime syrien, a été reporté, a annoncé le Comité international de la Croix-Rouge. La situation qui évolue sur le terrain ne nous permet pas de mener l'opération à bien, a fait savoir à l'AFP. Ingi Sedki, une porte-parole du CICR, un des partenaires de l'ONU qui participe au convoi. Plus de 900 civils, dont 188 enfants, ont été tués depuis le lancement le 18 février d'une offensive d'UNRWA intensifiée par le régime syrien sur le fief rebelle dans la Ghouta orientale, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Ce nouveau bilan intervient après la mort de 7 civils tués aujourd'hui dans une frappe aérienne visant la localité de Zamalka, selon l'ONG. Un tribunal irakien a annoncé aujourd'hui avoir condamné à mort la sœur d'Abu Omar al-Baghdadi, ancien chef d'Al-Qaïda en Irak, dont est issu le groupe djihadiste État islamique, tué en 2010. Cette femme, dont l'identité n'a pas été dévoilée, a été condamnée à la mort par pendaison, a indiqué dans un communiqué le porte-parole de la Cour pénale centrale, le juge Abdel Sattah Beraktar. Et puis deux hauts responsables sud-coréens sont partis de Séoul ce jeudi pour Washington. Objectif, rendre compte de leur visite à Pyongyang et évoquer notamment la proposition nord-coréenne d'un dialogue sur son arsenal nucléaire. Le conseiller national sud-coréen à la sécurité va rencontrer de hauts responsables américains, notamment le conseiller à la sécurité nationale et le secrétaire d'État Rex Tillerson, a indiqué l'agence sud-coréenne Yonhap. Ce sera tout pour ce journal. Le prochain, c'est dans 50 minutes et ce sera en compagnie de Henri Francisque. Merci de nous avoir suivis.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.